Et c'est l'heure du journal présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir.
Bonsoir Aurélie. Hervé, bonsoir à tous. Le sort des Rohingyas, évoqué en ce moment au Conseil de sécurité de l'ONU, Sébastien Farcy s'est rendu au Bangladesh, près de la frontière birmane, et il a rencontré des réfugiés. Jean-Claude Juncker croit en une Europe plus unie, plus forte et plus démocratique. Dans son discours sur l'état de l'Union, le président de la Commission européenne s'est montré très optimiste. Décryptage de Quentin Dickinson. Les routiers appellent à la mobilisation. CFDT et CFTC annoncent une journée d'action le 18 septembre. CGT et FO, une grève reconductible à partir du 25, explique de Raphaël Ebenstein. Et puis Emmanuel Macron est arrivé à Saint-Barthélemy. La situation y est moins préoccupante qu'à Saint-Martin, nous dira Thibault Lefèvre. Nous vous demandons d'agir immédiatement pour faire cesser les attaques militaires aveugles sur des civils innocents. Ce message a été adressé par une dizaine de prix Nobel au Conseil de sécurité des Nations Unies qui se penche ce soir sur le sort des Rohingyas, minorité musulmane victime d'après l'ONU d'une épuration ethnique en Birmanie. Depuis 18 jours, près de 400 000 réfugiés Rohingyas fuyant la répression de l'armée birmane sont arrivés au Bangladesh. Sébastien Farcy, envoyé spécial de RFI pour France Culture, est allé à la rencontre de rescapés. Ils lui ont raconté leur parcours de survie et l'aide qu'ils reçoivent parfois de la population locale.
J'entends encore le bruit des balles qui sifflent.
Simadjuddin a les yeux sombres et humides quand il parle de sa fuite. Il y a 2 semaines, l'armée birmane est arrivée dans son village et a laissé à tout le monde 2 heures pour partir. Il a pris quelques habits et quand il s'est retourné, ce hameau de 1000 maisons était en feu. Cet homme de 62 ans, père de 14 enfants, a pris la route avec 3 d'entre eux et sa femme. Il ne sait pas où sont ses autres proches.
Nous avons passé 13 jours dans la jungle, à marcher le jour et nous cacher la nuit. Nous mangions des feuilles et des fruits. Nous avons suivi les traces de pas des gens avant nous. Puis nous sommes montés sur un bateau. Mais même là, l'armée tirait sur nous. 2 personnes sont mortes sur le bateau.
Environ 300 Rohingyas vivent depuis 1 semaine sur ce terrain de bord de route. Mohamed Hachem, un Bangladais, a vendu ses poulets pour les installer à la place dans sa ferme.
Je les ai vus errer, je ne pouvais pas rester sans rien faire même s'ils sont étrangers, ce sont mes frères musulmans.
Ces Rohingyas n'ont rien à manger et très peu à boire, mais leur chance est déjà exceptionnelle. Dehors, des dizaines de milliers d'autres Rohingyas doivent dormir en plein air ou sous une bâche de plastique.
Un reportage signé Sébastien Farcy. Il faut parachever la maison européenne maintenant qu'il fait beau et tant qu'il fait beau. C'est ainsi que Jean-Claude Juncker a conclu son discours sur l'état de l'Union européenne ce matin à Strasbourg. Pour le président de la Commission européenne, il faut prendre les décisions nécessaires à la construction d'une Europe plus unie, plus forte et plus démocratique. Quentin Dickinson, vous avez écouté ce discours prononcé devant le Parlement européen. Jean-Claude Juncker s'est montré enthousiaste. Il a parlé de solidarité entre les États membres. Il n'aurait sans doute pas tenu le même discours s'il n'y avait pas eu la perspective du Brexit.
Oui, il est certain que la perspective du Brexit a libéré la capacité des dirigeants européens à concevoir une architecture et des procédures institutionnelles bien plus ambitieuses que celles qui seraient acceptables aux autorités britanniques qui, 40 ans durant, auront freiné toute intégration politique significative ou en auront limité le développement. Jamais en retard d'une métaphore maritime, Jean-Claude Juncker ce matin constatait que les vents étaient désormais favorables à ce que l'esquif européen reprenne le large, car au-delà de la levée de l'hypothèque britannique, les indicateurs économiques sont tous en voie de redressement près de 10 ans après la crise la plus grave que l'Europe et le monde a connue depuis les chocs pétroliers des années 1970. Et de préciser, depuis 2 ans, la croissance de l'économie européenne dépasse celle des États-Unis, le taux de chômage est retombé à son niveau de 2008, depuis 2 ans, ce sont 8 millions d'emplois nouveaux qui ont été créés, et désormais, 235 millions d'Européens ont un travail régulier du jamais vu. Pour M. Juncker, il faut donc larguer les amarres et hisser les voiles, car cette conjonction favorable ne durera pas éternellement. Il est urgent, insiste-t-il, de se fixer 5 objectifs. Consolider les règles du commerce international, renforcer la compétitivité des entreprises, poursuivre la lutte contre le changement climatique, assurer une protection adaptée à l'ère du numérique, enfin revoir de fond en comble la gestion des flux migratoires.
Quentin Dickinson au Parlement européen. Et Emmanuel Macron devrait annoncer ses propositions de réformes européennes le 26 septembre, juste après les élections législatives allemandes. Les autorités espagnoles amplifient leur offensive contre le référendum que veulent organiser les indépendantistes catalans. Le parquet général d'Espagne vient d'ouvrir une enquête contre les mairies des quatre provinces de Catalogne. 700 maires se sont engagés à participer à l'organisation du scrutin, pourtant suspendu par la Cour constitutionnelle. Le procureur veut interroger les maires et demande à la police d'arrêter ceux qui ne répondraient pas à sa convocation. La correspondance de Mathieu de Taillac.
La confrontation politique et judiciaire autour du référendum d'indépendance acquiert une nouvelle dimension. Ce sont désormais plus de 700 maires de communes catalanes qui sont dans le viseur de la justice espagnole. Le procureur général de l'État, autrement dit le chef de tous les procureurs d'Espagne, a demandé de convoquer les maires qui se sont engagés à collaborer à l'organisation du référendum censé se tenir le 1er octobre malgré la suspension de la Cour constitutionnelle. 700 maires, c'est autour de 3 maires sur 4 en Catalogne, même s'ils ne représentent que 40% de la population, car les communes les plus indépendantistes sont bien souvent les plus petites. Face à la quantité des interrogatoires à organiser, le procureur général a demandé de commencer par les communes les plus peuplées. Si le maire refuse de répondre à la convocation, le procureur ordonne à la police régionale catalane, les Mossos d'Esquadra, d'arrêter l'élu pour le contraindre à répondre à l'appel de la justice. Les Mossos d'Esquadra sont depuis quelques semaines au cœur du débat indépendantiste, car ils sont pris entre deux feux, entre la rébellion du gouvernement catalan, leur employeur, et leur obligation de faire exécuter les ordres de la justice espagnole. L'ordre d'arrêter les maires sera l'occasion de vérifier à qui obéit la police catalane.
Les victimes de l'ouragan Irma dans les Antilles françaises pourront bénéficier d'ici lundi d'un mécanisme d'aide financière d'urgence. Emmanuel Macron l'a annoncé à son arrivée sur l'île de Saint-Barthélemy. Le président de la République a discuté avec des habitants pour voir, a-t-il expliqué, ce que l'État peut faire pour soutenir la collectivité. Mais la situation est bien moins grave à Saint-Barth qu'à Saint-Martin. Les explications sur place de Thibault Lefèvre.
Des murs jaunes et un toit rouge intégré au béton. La maison d'Antoine est une construction classique de Saint-Barthélemy. Elle a résisté à Irma.
Les murs sont toujours en béton armé. Les distances entre les poutres, entre les pannes de la charpente sont beaucoup plus réduites qu'en métropole pour, bien sûr, que ce soit bien plus résistant. Nous, notre salle de bain, voilà, le plafond est en béton armé, quoi. Donc si même tout le reste de la toiture part, dans notre salle de bain, on est à l'abri, quoi.
Des normes anticycloniques impératives pour obtenir un permis de construire sur l'île, mais qui augmentent considérablement le coût des chantiers. Pascal Couchy gère une société de fabrication de matériaux pour les toits.
Les maisons sont faites avec des cabinets d'architecture, tandis qu'on peut retrouver dans des quartiers qui ont moins les moyens que les maisons sont faites avec des coups de main. C'est-à-dire que chaque personne se donne un coup de main pour pouvoir construire la maison et avec peu de moyens. Ce qui fait que la structure n'est pas la même. Bien entendu, le coût de la réalisation n'est pas le même non plus. Toutes les infrastructures qui ont été faites de façon récente avec les normes anticycloniques, on a pu constater que les maisons sont encore debout.
La puissance inédite d'Irma a eu raison de quelques maisons pourtant aux normes, notamment dans les secteurs les plus exposés au vent.
Thibault Lefèvre à Saint-Barthélemy. À Saint-Martin, il y a encore beaucoup à faire pour rétablir l'eau potable et l'assainissement des déchets. Selon la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, il va falloir de très longs mois avant que la vie ne reprenne comme avant. Les écoles vont tout de même tenter de rouvrir la semaine prochaine et cela devrait être possible grâce au travail d'une entreprise drômoise qui prévoit de construire 6 classes d'école sur l'île. Créée il y a 5 ans, Logélis est spécialiste de l'habitat en kit, simple, écologique et surtout très rapide à construire, notamment en cas de crise, Solène Cresson.
Tout sera confectionné à Romans-sur-Isère dans la Drôme dans les 3 semaines à venir. De grands panneaux qui seront assemblés autour d'une structure en acier. Tout va aller très vite, explique Franck Lejeune, directeur international chez Logélis.
On va construire en 10 jours où il faut 6 mois ou 1 an pour construire en dur.
Et les bâtiments sont prévus pour résister au climat de Saint-Martin, précise le PDG de Logélis, Renaud Sassy.
La spécificité, c'est qu'on va construire du durable dans les normes cycloniques, antisismiques et autres, de façon immédiate, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire du provisoire qui va être détruit pour refaire du définitif, on vient faire directement du définitif.
De tels bâtiments en un temps record, c'est un challenge, mais l'entreprise est habituée aux situations de crise. Elle a déjà livré ce type d'habitat en kit en Irak l'an passé. Renaud Sassy le sait, aller vite est important après une catastrophe.
C'est vraiment le cœur de la mission de l'entreprise, pouvoir fournir très rapidement des logements à haute qualité environnementale pour des personnes qui sont en situation difficile.
Le coût s'élève à environ 500 000 euros. Tout est financé par une fondation basée à Albi qui vient en aide aux enfants en difficulté. Une fois sur l'île, les dirigeants de Logélis espèrent repérer d'autres besoins pour continuer à apporter leur savoir-faire.
Au lendemain des premières manifestations contre la réforme du Code du travail, les syndicats de routiers passent à l'action. La CFDT et la CFTC Transport prévoient une journée de mobilisation lundi prochain. La CGT et Force ouvrière appellent de leur côté à une grève illimitée des routiers à partir du 25 septembre. Les deux fédérations dénoncent plusieurs dispositions des ordonnances gouvernementales qui vont, selon elles, particulièrement impacter les chauffeurs, Raphaël Ebenstein.
Pas question, selon leurs termes, de faire une grève saute-mouton d'une seule journée. Les deux fédérations promettent des actions fortes dès le 25 septembre, Patrice Clos, secrétaire général de FO Transport.
Ben, action forte, ça peut être jusqu'à des blocages, carburant, dépôts alimentaires ou autres. Ça peut aller jusque-là.
Dans un secteur où 80% des entreprises sont des PME de moins de 20 salariés, les deux syndicats fustigent la possibilité pour les employeurs de pouvoir renégocier à la baisse certaines primes, ce qui peut laisser craindre des pertes de pouvoir d'achat, un vrai dumping social. Jérôme Vérité, secrétaire général de la CGT Transport.
La prime, notamment d'ancienneté, peut représenter plus de 100 euros par mois, qui pourraient disparaître purement et simplement de la fiche de paye. Et évidemment, dans une logique de dumping social, avec des entreprises qui s'engouffreraient là-dedans et d'autres qui seraient évidemment contraintes, finalement, pour s'aligner notamment sur la question des prix, de rentrer dans cette logique de dumping social.
L'an dernier, après plusieurs jours de grève et de blocage des routiers contre la loi El Khomri, le gouvernement avait choisi d'exclure spécifiquement les chauffeurs d'une de ces dispositions. Un décret leur garantit ainsi de garder leurs heures supplémentaires majorées de 25%, à l'inverse des autres salariés, pour qui elles peuvent être abaissées à 10%.
Pour l'instant, pas question pour le gouvernement de faire marche arrière, mais la CGT est satisfaite de la mobilisation d'hier. Elle estime qu'il y a eu près de 500 000 manifestants. Jean-Luc Mélenchon juge aussi très positive cette première journée d'action. En l'absence du chef de l'État, le plan logement n'a pas été présenté ce matin en Conseil des ministres, mais ses contours commencent à se préciser. Édouard Philippe, sur France 2, a confirmé que le logement social devrait participer aux efforts d'économie. Les APL, les aides personnalisées au logement, versées aux bailleurs sociaux seront diminuées, mais les loyers des locataires sociaux vont baisser, eux aussi. Leurs organismes HLM devront donc se passer de plusieurs milliards d'euros par an, et la seule compensation sera la stabilisation du taux du livret A qui sert à financer le logement social. Cet arbitrage ne satisfait pas du tout les bailleurs sociaux. Pour eux, cette baisse des loyers est intenable dans le cadre de leur mission. Écoutez Mariam Louis, elle est secrétaire générale de l'Union sociale pour l'habitat.
Ce qu'il faut savoir, c'est que les organismes HLM, ils ont une dette de très long terme qui est de 140 milliards. Cette dette, elle est garantie par les collectivités locales. Réduire dans ces niveaux-là les ressources des organismes HLM, c'est ne pas leur permettre, à terme assez rapide, de faire face à leurs obligations. Alors, c'est leurs obligations financières, mais c'est aussi leurs obligations vis-à-vis des locataires. C'est leurs obligations en termes de rénovation, en termes d'entretien, en termes de rénovation thermique, puisque nous avons pris des engagements en termes de rénovation thermique. Et puis, c'est aussi leur capacité à intervenir pour soutenir la production. Les organismes HLM produisent plus de 100 000 logements par an, représentent 300 000 emplois directs et indirects. C'est tout ça aujourd'hui qui, par voie de mesures, d'annonces, de rumeurs, semble remis en cause, sans qu'à aucun moment tous les sujets ne soient posés sur la table et examinés. La moitié des attributions que nous faisons tous les ans sont des attributions à des ménages dont les revenus sont inférieurs au seuil de pauvreté. Donc il y a une utilité sociale du parc HLM. Et aujourd'hui, d'un seul coup, par des mesures qui sont prises, qui semblent être décidées très brutalement et sans aucune pensée de long terme, nous retrouverions avec un système complètement déstructuré. Ce dont on parle là, ça n'est pas une politique du logement. C'est d'un bouclage budgétaire avec des choix budgétaires qui ont été faits.
Mariam Louis répondait à Anne Lorchouin. Et puis c'est une mauvaise nouvelle pour les épargnants. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, vient de l'annoncer. Les PEL, plans épargne logement, ouverts au 1er janvier 2018, seront taxés à 30% dès la première année. Taxation de 30% aussi pour les assurances vie au-delà de 150 000 euros. Le gouvernement veut ainsi réorienter les Français vers l'économie réelle et vers des placements plus risqués, explique l'économiste Philippe Crevel, qui dirige le Cercle de l'épargne, un centre d'études et d'informations consacré à l'épargne et la retraite. Il s'agit donc d'une vraie rupture fiscale.
C'est une politique fiscale qui rompt sans nul doute avec celle de François Hollande, qui avait eu comme principe d'assujettir les revenus du capital au barème de l'impôt sur le revenu. Donc là, c'est vrai qu'on fait une marche arrière. On va même au-delà donc de ce qui avait été fait sous Nicolas Sarkozy, mais on revient dans la moyenne européenne en matière de taxation des revenus de l'épargne. Donc on n'est pas sur un système ultra-libéral, mais c'est vrai qu'il y a une rupture par rapport aux 5 dernières années. La France a toujours été un pays qui a adoré l'épargne sans risque. Là, le gouvernement veut changer un peu le modèle. Est-ce que cela se fera du jour au lendemain? Non, parce que les Français ne vont pas du jour au lendemain devenir des anglo-saxons, des Américains et des Anglais, et aller sur le marché action. Ce n'est pas la culture française. Donc il faudra, à mon avis, du temps. Mais c'est un signal fort qui est envoyé à l'étranger en disant, vous voyez, la France se met dans la moyenne européenne dans la taxation du capital, vous pouvez venir chez nous créer des entreprises. Et c'est vrai que là, il y a un changement de paradigme par rapport à ces dernières années. Et bon, il n'y a pas beaucoup de précédents en France en la matière. Là, on est, c'est vrai, sur un moment de rupture, mais il faudra voir les résultats sur 3-4 ans pour voir si ça enclenche quelque chose au niveau économique. Au moins, ça a l'avantage de la nouveauté en la matière.
Avec 12 attentats déjoués depuis le début de l'année, la menace reste encore forte selon le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Le projet de loi antiterroriste destiné à remplacer le régime exceptionnel de l'état d'urgence est examiné depuis hier par la commission des lois de l'Assemblée, Emmanuel Leclerc.
Oui, il a été question notamment des fermetures de lieux de culte quand certains responsables ou des imams sont soupçonnés de radicalisation. Le gouvernement souhaite une fermeture temporaire de 6 mois maximum, le temps de créer une autre association cultuelle pour ne pas punir ad vitam aeternam les fidèles. Tous les amendements ont été rejetés, sauf un pour alourdir les peines de prison encourues dans ce genre d'affaires. 3 ans et 45 000 euros d'amende. Pour le reste, l'ancien président de la commission des lois, Dominique Raimbourg, qui vient de prendre sa retraite, regrette un affaiblissement du futur contrôle parlementaire dans ce projet de loi.
Les garanties ne sont pas suffisantes. C'est la nécessité d'un contrôle parlementaire spécifique sur les mesures de l'article 3 et 4, c'est-à-dire les assignations à résidence élargie qui peuvent être prises par le ministre de l'Intérieur et les perquisitions qui peuvent être prises, décidées par les préfets. Je pense qu'il faudrait mettre en place un contrôle parlementaire sur le modèle de ce qui a été fait dans l'état d'urgence.
Autre point sensible soulevé cette fois par la CIMAD, l'Association de protection des étrangers, c'est l'article 10 qui rend pérenne le rétablissement des contrôles frontières du code de Schengen dans toutes les grandes villes, aux abords des gares ou des aéroports. Sarah Belaïch est l'une des porte-paroles de la CIMAD.
Le projet de loi parle de lutte contre le terrorisme. De fait, il va permettre de contrôler des personnes qui sont en situation irrégulière, des personnes sans papier, sans aucune justification, qui pourraient cacher des contrôles d'identité au faciès, en fait. Il n'y a aucune garantie, il n'y a aucune limite, aucun encadrement par les textes.
Et depuis hier, plusieurs députés ont rappelé que le plus important n'est peut-être pas dans le projet de loi, c'est une bien meilleure détection des réseaux terroristes dormants par les services de renseignement, par les familles de djihadistes, ou encore, on l'a vu comme à Villejuif récemment, par des signalements d'un artisan en l'occurrence. Ça c'est sans doute le plus important dans les mois et les années à venir.
Emmanuel Leclerc. Le suspect du meurtre de Sarah Halimi est accessible à une sanction pénale. Sarah Halimi, c'est cette femme juive dont la mort par défenestration à Paris avait suscité une vive émotion. Le discernement du suspect, le voisin musulman de la victime, était altéré mais pas aboli au moment des faits, estime l'expert psychiatrique dans ses conclusions. L'association Utopia 56 claque la porte du centre humanitaire pour migrants de Paris. Elle dénonce une ingérence négative de l'État qui, selon elle, vise à piéger les migrants. Le centre a ouvert il y a un an, Porte de la Chapelle, à l'initiative de la ville de Paris. Son rôle, c'est d'accueillir les migrants une dizaine de jours avant de les orienter vers d'autres structures. Bonsoir Antoine Marette.
Bonsoir Aurélie.
Vous venez de la Porte de la Chapelle et Utopia 56 pense mieux aider les migrants dans la rue que dans ce centre.
Il y a une centaine de mètres de ce centre, le vice-président d'Utopia 56 a tenu une conférence de presse en début d'après-midi. Yann Manzi a expliqué les raisons de sa décision.
Le camp de la Porte de la Chapelle, porté par Anne Hidalgo, piloté par Emmaüs Solidarité. Sur le papier, à la base, c'était un bon projet. La réalité de ce que vient ce dispositif n'est plus du tout le projet initial. On voit au fur et à mesure l'État qui met la main sur ce dispositif et qui en fait quelque part ce qu'elle veut en faire. Ce qu'on vit depuis 2 ans et demi à Calais, à Paris, à Grand-Synthe, à La Roya, c'est la réalité des citoyens qui essayent de s'organiser pour améliorer l'accueil et la réalité en fait que l'État veut garder le monopole. Et pour moi, ce camp de la Porte de la Chapelle, dans l'état actuel, ne doit pas être reproduit.
Utopia 56 dénonce en fait une traque des réfugiés organisée selon elle par la police aux alentours de la structure. Elle montre du doigt également ce que l'on appelle la procédure de Dublin. Les migrants enregistrés dans un autre pays européen sont censés, au terme de cette procédure, y être renvoyés. Et selon Utopia 56, l'État aurait tout simplement transformé cette structure en centre de tri. Les bénévoles de l'association vont donc continuer leurs activités d'aide aux migrants, mais dans la rue. Une décision que commente avec un certain embarras Bruno Morel, directeur général d'Emmaüs Solidarité.
On a eu plaisir et on a travaillé vraiment de concert avec Utopia. Utopia veut maintenant travailler dans la rue, donc je suis sûr qu'ils vont faire aussi un super boulot. Et nous, on va travailler de l'intérieur et on va continuer à plaider pour un accueil digne des migrants. Et évidemment, on a des débats, on se pose la question, il y a des instances dans Emmaüs. Pour l'instant, on est dans la phase d'étude de ce que sera le futur dispositif. Donc s'il y a des dispositions à prendre, on les prendra en leur temps. Nous, on fait le pari que ce dispositif qui a fait ses preuves peut continuer à fonctionner, effectivement, dans des conditions de dignité, de bienveillance, de proximité.
Et effectivement, les débats existent au sein d'Emmaüs Solidarité. La semaine dernière, la directrice adjointe de l'association s'est dite inquiète pour l'avenir du centre qui doit déménager au printemps et elle n'a pas exclu une sortie totale du dispositif.
Antoine Marette, le temps restera pluvieux demain. C'est autour de la Méditerranée que le soleil se montrera le plus généreux. Les températures seront fraîches, 12 à 15 degrés maximum près des frontières du Nord, 16 à 20 en général, jusqu'à 30 en Provence.